Remets ton sort à l'Éternel, nous dit ce psaume 55, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. C'est effectivement quelque chose que l'on entend assez souvent, qu'il faut remettre son sort entre les mains de Dieu. Nous nous en remettons à Dieu. Et même souvent dans nos prières d'église, nous disons « Seigneur, nous te remettons notre paroisse, notre famille, nos projets, notre vie même ou nos biens. » Et qu'est-ce qu'on entend par là? Cette formule est bien courante, elle est bien connue, mais comme toutes les formules un petit peu rebattues, peut-être est-il bon de se demander ce que nous mettons en dessous de cette expression. Certainement, je pense qu'il y a une grande variété là-dedans, et certains y mettent des choses différentes. Aussi, je vous propose, je dirais, un petit catalogue de différentes manières de comprendre cette expression de la providence divine. Et je vais commencer par celle que j'aime le moins. Donc je serai forcément un peu malhonnête et vous corrigerez en fonction de ce que vous préférez vous-même. La première compréhension de cette expression serait de l'entendre comme un déterminisme complet. Je m'en remets à Dieu parce que de toute façon, tout est déjà écrit d'avance. Donc je n'ai pas à m'en soucier puisque déjà à l'avance, les choses sont écrites. Ce déterminisme, il s'exprime de différentes manières, dans certains paganismes par exemple, avec l'astrologie. L'astrologie prédit ou les lignes de la main, on vous dit « Madame ou monsieur, vous avez une ligne de vie qui fait telle longueur, donc vous aurez une vie longue ou une vie courte », comme si cela ne dépendait absolument pas de vous et que par conséquent, vous n'avez pas à vous en soucier. C'est aussi ce qui existe d'une certaine façon même dans la religion chrétienne. Quand parfois on entend dire quelqu'un qui réchappe à un accident très grave et l'on dit « Ah, ça n'était pas son heure », on laisse supposer qu'il y avait une heure pour qu'il meure. Et que si ça n'était pas son heure, c'est que ça n'était pas l'heure prévue à l'avance pour qu'il meure. Ce déterminisme a un avantage, c'est qu'il permet de se dépréoccuper complètement de la question de l'avenir. Je n'ai pas à me faire de soucis, puisque de toute manière, cela ne dépend absolument pas de moi, et par conséquent, je prendrai les choses comme elles viennent. En ce sens, cela a un certain effet tranquillisant, je dirais, sur les gens. Certainement, y a-t-il un peu de cela dans cette quête de l'astrologie? Les gens ont peur de l'avenir et on va essayer de chercher dans les astres quelque chose qui nous dise « Non, les choses ne sont pas indéterminées, donc il n'y a pas à avoir peur, puisque les choses sont déjà fixées. » Et en fin de compte, je crois que l'indétermination nous fait beaucoup plus peur que ce qui est déterminé. C'est pourquoi d'ailleurs, entre nous, cette liberté que l'on laisse même dans le protestantisme est quelque chose parfois vécu comme angoissant par les gens. Parce qu'on ne sait pas où ça mène. Et beaucoup de fidèles aimeraient mieux qu'on les prenne en charge et qu'on leur dise « N'ayez pas peur, ne craignez rien, suivez-moi aveuglément et je vais vous conduire du point A au point B sans qu'il y ait aucune chance de vous égarer. » Au contraire, je pense personnellement que l'égarement a du bon et que l'incertitude a du bon. Et même si c'est inconfortable, je crois que cette espèce de déterminisme et de façon de rassurer sur l'avenir est mauvaise. D'abord parce que je crois qu'il y a une vraie liberté dans l'homme. Et si ma vie, pour moi, est intéressante et passionnante, c'est bien parce que je pense que je peux moi-même choisir d'agir d'une façon ou d'une autre et que cette liberté qui m'est donnée a de vraies conséquences. De vraies conséquences sur moi, sur mes proches et aussi sur le monde. C'est-à-dire que je crois que nous avons une vraie responsabilité dans ce monde et que nous tous, et que tous les humains, c'est finalement eux qui ont en main la destinée du monde. Et d'autre part, je crois aussi que Dieu a une certaine liberté. Et on voit sans arrêt dans l'Écriture, en tout cas, le fait que Dieu change d'avis, Dieu a un projet, et puis finalement l'homme ne réagit pas comme il aurait voulu, alors Dieu change d'avis, et puis Dieu regrette d'avoir même agi comme ça, alors il repart dans un autre sens. Et cette liberté essentielle de l'homme et de Dieu me semble une des choses les plus importantes de l'Écriture dans laquelle je préfère me maintenir. Et même, je dirais, que c'est justement cet indéterminisme de l'univers, cette indétermination de nos vies, cette indétermination même du futur qui peut permettre de trouver une dimension créative dans le monde et dans notre existence. C'est parce que les choses ne sont pas fixées et verrouillées que justement tout est possible. Le meilleur comme le pire, certes, mais aussi le meilleur. Il y a un petit proverbe qui vient de la tradition juive et qui est assez connu, mais qui me semble très intéressant, et qui dit « Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu risquerais de ne pouvoir t'égarer. » Et en effet, l'intéressant, c'est peut-être justement de s'égarer. D'autres gens le disent, vous savez, les amoureux de Venise disent que le meilleur moyen de découvrir la ville, ce n'est pas de suivre un guide qui va vous dire « Allez dans telle rue, dans telle place », mais c'est de se perdre dans Venise. Parce que c'est alors que l'on a le plus de chances de découvrir l'inattendu et de découvrir l'extraordinaire et l'exceptionnel. Mais oui, c'est vrai, il y a un risque. L'autre façon de comprendre cette providence divine, c'est de dire « D'accord, ce n'est pas entièrement déterminé, mais il n'empêche que c'est quand même entièrement dans la main de Dieu. » C'est-à-dire que ce n'est pas complètement déterminé, mais il y a quand même une instance qui peut faire en sorte que tout se passe selon sa propre volonté. Je crois que c'est comme cela que l'entendent la plupart des chrétiens traditionnels quand ils pensent à l'idée d'une providence divine. Je m'en remets à Dieu, sous-entendu, moi j'arrête d'agir, je me retire, et je dis à Dieu maintenant, occupe-t'en. Et par conséquent, Dieu me laisse une liberté, mais dans la mesure où je la veux bien et où je l'assume. Et si Dieu voit que j'agis, alors il me laisse faire. Et peut-être me laissera-t-il aussi les conséquences bonnes ou mauvaises de mes actes. Mais à certains moments, je dis à Dieu, maintenant, allez, reprends le manche, moi j'arrête, et c'est à toi d'agir. Et à ce moment-là, il y aurait une sorte de confiance extraordinaire en Dieu, de penser que si je laisse Dieu faire, alors tout sera pour le mieux. C'est effectivement comme ça, je crois, que beaucoup de chrétiens un peu traditionnels comprennent l'idée de providence divine. En particulier, si je reprends ces événements terribles qui menacent tout être, comme les accidents ou la mort, même notre liturgie de l'Église réformée de France nous demande de commencer les services funèbres par ces mots terribles. Dieu a rappelé à lui un tel à l'âge de... point, point, point. Alors vous remplissez, Dieu a rappelé à lui Henri à l'âge de 23 ans, à l'âge de 5 ans, à l'âge de 99 ans. Et j'ai toujours trouvé abominable cette formule. Mais en même temps, elle exprime la foi de ceux qui l'ont écrite, de penser que c'est Dieu qui fait vivre et qui fait mourir. Et que si, par exemple, vous partez en vacances et que vous dites « Voilà, je laisse mon appartement parisien pendant 2 mois inoccupé », alors est-ce qu'il y aura des voleurs ? Et je dis bien « Je m'en remets à Dieu ». Alors est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui va, lui, être capable de retenir la main des voleurs sur votre propre maison ? Et pourquoi ? Parce que vous seriez un petit chouchou de Dieu, peut-être. Peut-être parce que vous auriez été bien aimé de lui. Peut-être qu'il veut vous favoriser. Peut-être que je ne sais quoi. Mais en tout cas, est-ce que vous imaginez vraiment que Dieu se préoccupe de ce genre de choses ? Et pourquoi est-ce que Dieu, à ce moment-là, n'empêche pas tous les vols de la capitale ? Est-ce que le fait que votre propre appartement soit cambriolé est plus grave que ce soit le fait que ce soit celui de la voisine ou de quelqu'un d'autre, qui a peut-être même moins de biens que vous ? Alors oui, cette formule de providence divine, j'avoue, ne me convient pas non plus. Parce que je trouve que d'une certaine façon, on retombe dans une forme de superstition. La superstition, c'est bien ça. C'est devant la crainte de l'avenir, on se dit, oui, c'est vrai, il y a un avenir indéterminé, mais il y a des forces supérieures et plus hautes que tout cela qui peuvent faire en sorte que tout n'aille pas dans n'importe quel sens. Et donc, je vais essayer de mettre de mon côté ces forces cosmiques qui vont permettre de m'éviter le pire. Alors, les gens sont naturellement superstitieux. Ceux qui ne vont pas au temple, ils ont des pattes de lapin, des fers à cheval, ils font des choses comme ça, et on se dit « Ah, si des fois que j'ai un porte-bonheur dans ma poche, ça m'évitera du malheur ». Ceux qui sont dans des religions un petit peu intermédiaires vont croire qu'il suffit de mettre dans la voiture une médaille de Saint-Christophe pour éviter les accidents. Heureusement, beaucoup de gens mettent des médailles pour d'autres raisons, mais néanmoins, il y en a certains qui le mettent pour ça. Et là, on est dans la superstition. Mais vous voyez où j'en viens. C'est que même sans médaille, il y a la possibilité pour nous, même protestants, qui essayons d'enlever tout ce qui pourrait tourner vers la superstition, d'enlever les gestes, d'enlever les objets, d'enlever les signes, d'enlever toute marque extérieure, il y a toujours la possibilité de retomber dans un Dieu superstitieux, et où le Dieu dans lequel nous croyons est une sorte de patte de lapin morale, spirituelle, psychologique. Alors on se dit, bon, je pars en vacances, oui, j'ai un peu peur du voyage, de l'imprévu, de ceci, cela, mais bon, j'ai pas de patte de lapin, ni de fer à cheval, mais j'ai Dieu dans ma tête, et je n'ai qu'à le prier, et lui arrangera toute chose. On est exactement dans le même schéma que la superstition la plus enfantine et la plus basique. Or, je crois que justement, une des choses les plus essentielles de l'Évangile, c'est de nous libérer de la peur, et en même temps, de nous rendre autonomes et libres. Et pour cela, ce n'est pas pour nous libérer de la peur d'un avenir ou d'événements, pour nous remettre sous le joug d'un Dieu qui serait une sorte de Dieu tyrannique qui pourrait faire les choses d'une manière ou d'une autre. Oui, je crois que la prière risque effectivement de devenir une sorte de fer à cheval. Je prie Dieu pour qu'il ne m'arrive pas de malheur. Mais entre nous, quelle différence entre celui qui prie Dieu pour qu'il ne lui arrive pas de malheur par rapport à celui qui va effectivement toucher un porte-bonheur ou faire un geste particulier en pensant que ce sera un effet pour lui. Alors donc, par conséquent, en ce qui me concerne, je n'aime pas trop cela. Je n'aime pas trop cela, et parce que j'ai une idée plus haute de non seulement de Dieu, mais aussi de nous, et enfin de la prière. J'ai une idée plus haute de nous d'abord, parce que je crois effectivement que notre responsabilité est totale, et qu'il n'y a pas un moment où nous puissions dire « Maintenant, je lève le pouce et je dis « Je ne m'occupe plus de rien, c'est Dieu qui gère ». Je crois que si Dieu nous rend responsables, c'est que nous le sommes. Et si nous le sommes vraiment. Ensuite, j'ai une plus haute idée de Dieu. Et je ne crois pas que Dieu s'amuse avec nous. Je ne crois pas que Dieu s'amuse à faire semblant de nous laisser libres. Je ne crois pas que Dieu s'amuse non plus avec nos destins, en voyant une maladie à l'un, une guérison à l'autre, un cambriolage à celui-là, une jambe cassée au troisième. Je crois que Dieu, effectivement, a suffisamment de respect pour la création qu'il a faite, pour croire que cette création peut être responsable d'elle-même. Donc oui, effectivement, si vous faites n'importe quoi, en faisant du skateboard à 90 ans, vous vous casserez une jambe. Eh bien, c'est comme ça. Et ce n'est pas en priant Dieu que vous l'empêcherez. Parce que la prière n'est pas de cet ordre-là. Donc je crois que Dieu nous prend au sérieux, je crois que notre liberté est réelle, je crois que notre action dans le monde est une action réelle, et qu'il n'y a pas un Dieu pour faire en sorte que tout puisse faire n'importe quoi, dans un sens ou dans l'autre, suivant qu'il le désire ou non. Et enfin, j'ai aussi une autre conception de la prière. Parce qu'en effet, tout à l'heure je vous disais que la prière peut devenir superstitieuse, et la prière, elle peut l'être. En effet, on sait dans les religions païennes, dans les religions primitives, chez les Indiens d'Amérique qui font des danses de la pluie, il y a des prières aussi. Et ces prières, elles consistent à croire justement qu'il y a un Dieu qui pourrait faire les choses à sa guise. Et la prière, ça consiste à essayer de convaincre Dieu de faire les choses selon ce que nous voudrions, nous. Alors on va convaincre Dieu de cela. Alors on va faire des danses, parce qu'on suppose que Dieu aime les danses. Pourquoi pas, après tout, hein ? Nous, on croit bien que Dieu aime les cultes, on croit bien qu'il aime les prières, que croire que Dieu aime les danses, c'est pas plus absurde qu'autre chose. Alors on lui fait des danses, et si Dieu est content, peut-être qu'il va bien vouloir donner de la pluie. Ou alors, on va faire des sacrifices, on va dire « Ah, je vais tuer un bélier, un agneau, un mouton, un être humain peut-être même, et si j'offre à Dieu quelque chose d'extraordinaire, alors Dieu va m'offrir » Ou alors la fécondité pour mon épouse, des bonnes récoltes, de la santé, de la pluie pour la saison à venir, ou je ne sais quoi encore, et la prospérité, et tout ce que nous désirons. Donc là, c'est effectivement la superstition. Et dans notre prière, il y a toujours aussi le danger que notre prière devienne une superstition. C'est-à-dire une façon de croire que par la prière, nous pourrions modifier Dieu. Alors Dieu est là-haut, et il attend qu'on lui donne des ordres. Et alors on dit à Dieu, tu sais, hein, tu ferais bien de te préoccuper de Madame Machin qui est malade. Peut-être que tu devrais la guérir. Et Dieu se dit, mais c'est vrai, tiens, je n'y avais pas pensé. Et puisqu'on me le demande, je vais la guérir. Mais là, le Christ lui-même, pour peu qu'il ait dit ses propos de Matthieu 6, est très clair. Ne faites pas comme les païens, qui pensent que c'est à force de réclamer et de réclamer à Dieu qu'ils seront exaucés. Parce que Dieu sait très bien de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Et oui, si vous souffrez, si votre enfant est malade, vous ne croyez pas que Dieu le sait. Et vous ne croyez pas que Dieu serait capable de rester comme ça, les bras incroisés et insensibles, en se disant, eh bien, il ne me l'a pas demandé, je ne le ferai pas, et qu'il va laisser mourir votre enfant. Et si moi je vois une famille qui vient me voir parce que leur enfant est mort, je leur dis quoi? Je leur dis, Dieu aurait pu la guérir, mais ne l'a pas guéri. Ils vont me demander pourquoi. Alors je vais leur dire, c'est parce que vous n'avez pas assez prié, parce que vous n'aviez pas assez la foi. Et est-ce que vraiment, vous êtes prêts, vous, aller dire ça les yeux dans les yeux à quelqu'un qui souffre parce que son enfant est mort? Eh bien, moi, je ne peux pas. Non seulement humainement, je ne le peux pas, mais intellectuellement et théologiquement, je ne le peux pas non plus. Parce que ce Dieu-là, si Dieu était comme ça, alors je ne peux pas croire en lui et je ne pourrais pas le prêcher. Par conséquent, je crois que la plus grande découverte de la religion du monde, c'est celle d'Abraham. Vous savez, Abraham qui fait ce basculement extraordinaire et qui passe, je dirais, de la religion idolâtrique qui consiste à réclamer des choses à Dieu à la religion, je dirais, de la Bible qui consiste à croire que la prière, c'est non pas d'envoyer des choses à Dieu, mais c'est de recevoir de Dieu. Et en effet, Abraham, Dieu s'adresse à lui. Et Dieu dit à Abraham, « Va-t'en, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans la terre que je t'indiquerai. » Et Abraham, sans poser une question, y va. Et ça, c'est la plus grande révolution de toute l'humanité. De comprendre que la prière, c'est non pas d'aller demander à Dieu de se mettre à notre volonté, mais que la prière, ça consiste à écouter Dieu pour accomplir sa volonté. Et en effet, quand je vous disais que si je refusais cette idée de cette providence matérielle, c'est parce que j'avais une trop haute idée de la prière. Oui, effectivement, je ne crois pas dans la providence matérielle. Je le dis d'une façon un peu excessive et je vous demande pardon. Bien sûr, vous nuancerez tous ces propos en fonction de votre propre sensibilité, mais c'est pour le plaisir de la démonstration. Mais néanmoins, ce n'est pas pour autant que je crois que Dieu soit rien et que la prière soit rien. Parce que je crois très profondément, très intimement et très réellement dans la providence divine. C'est-à-dire, je crois que oui, effectivement, peut-être que Dieu n'a pas pu empêcher cet enfant de mourir, mais ça ne veut pas dire que Dieu soit rien. Peut-être qu'effectivement, la prière, ce n'est pas en priant Dieu que je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de sécheresse cet été dans mon jardin. Mais ça ne veut pas dire que la prière soit rien. Je crois au contraire que la prière est une chose absolument extraordinaire parce que c'est par là que nous recevons tout de Dieu. C'est par là que nous recevons tout, non seulement une force de vie, une espérance, une confiance, une façon d'agir, une intelligence, une lumière, un soutien, et que c'est justement la prière elle-même qui est la source même de notre vie et la source de la confiance que nous pouvons avoir en Dieu. En effet, dans ce passage qui suit juste cet épisode de la prière dans Matthieu 6, le Christ apparemment continue dans la même logique. Et il dit, ne vous préoccupez pas du lendemain, de ce quoi vous serez vêtu, de ce que vous mangerez et tout ça. Ce n'est pas pour dire, vous avez qu'à vous en fiche. Évidemment, nous sommes responsables de ce monde, responsables de nos vies, responsables de la vie de ceux que nous aimons. Donc oui, demandez-vous aujourd'hui ce que mangeront vos enfants demain. C'est évident, je dirais. Mais il faudrait rajouter ce mot « ultimement ». Ne vous préoccupez pas ultimement de ce que vous mangerez, de ce quoi vous serez vêtu. C'est-à-dire, n'en faites pas un sujet d'angoisse. Et pourquoi? Parce que justement, il y a Dieu qui est là. Et que Dieu est plus grand que tout cela. Et justement, parce que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que notre vie, comme le dit ce même passage de Matthieu, la vie est plus que le vêtement et le corps est plus que la nourriture. Notre existence est bien au-delà de tout ça. Et que par conséquent, on peut trouver en Dieu, je dirais, quelque chose qui nous permette, d'une certaine manière, de relativiser toutes les choses matérielles qui peuvent nous arriver. Alors parfois, quand on baptise un enfant, par exemple, certains parents se disent « Ah, on le baptise. » Alors ça sert à quoi de baptiser un enfant ? Il y a le baptême superstitieux, ah, ça lui évitera des problèmes et peut-être qu'avec l'aide de Dieu, sa vie sera meilleure. Et puis il y a le baptême chrétien qui dit, eh bien si je baptise cet enfant, c'est justement pour dire que je crois très profondément que quoi qu'il arrive, il y a toujours dans cette vie une vie possible, une joie possible. Il y a toujours la possibilité d'aimer, toujours la possibilité d'espérer. Et quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui est plus grand et plus fort que tout ce qui peut arriver, qui est Dieu lui-même. Non pas parce que c'est Dieu qui peut gérer le fait qu'il soit malade ou non, mais parce que Dieu est même au-delà de la maladie, au-delà de la vie et de la mort, au-delà de tout cela. Et croire en Dieu, c'est autrement dit sortir de cette sphère païenne, des préoccupations matérialistes et quotidiennes, sortir de tout cela pour accéder, je dirais, à un ciel bleu qui serait au-dessus des nuages, comme quand on passe en avion, on traverse les nuages, et on sait qu'au-dessus de ces nuages, il y a un ciel éternellement bleu. Eh bien, Dieu, c'est ça. C'est ce ciel éternellement bleu qui est au-dessus de toute chose. Et je sais que quels que soient les nuages qu'il y a là, il y a toujours au-dessus de la lumière, du ciel, de l'espérance et de la joie. Et prier, la prière, c'est être capable de se mettre en contact, en communication avec ce ciel bleu. Prier, c'est avoir un accès direct, je dirais, à cette lumière. Et même si les nuages s'amoncellent dans ma vie, eh bien oui, il y a des nuages, c'est comme ça. Mais il y a toujours cette lumière au-dessus. Toujours cette espérance, toujours cette joie, toujours cette vie. Donc quoi qu'il arrive, je m'en fiche, parce que toujours il y a quelque chose que personne ne pourra jamais obscurcir, qui est ce soleil, cette lumière de Dieu qui est au-dessus de toute chose. On trouve ça aussi d'ailleurs, vous savez, dans différents psaumes ou dans différents passages. Quand, par exemple, dans le psaume 23, ce passage bien connu, quand on dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal ». Ah, pourquoi est-ce que je ne crains aucun mal d'ailleurs? Alors, vision païenne, parce que moi j'ai un Dieu, et je sais que si j'ai avec mon Dieu à moi, qui est tout puissant, qui peut tout faire, je n'ai qu'à lui demander, et quand je serai dans la vallée de l'ombre de la mort, il va me prendre par la peau du cou et me poser sur une plage ensoleillée. Eh bien non, ce n'est pas ce que dit le psalmiste. Le psalmiste dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est ça, car tu es avec moi. Oui, je sais, il peut arriver plein de choses dans ma vie. Et la providence de Dieu ne va pas faire que je ne sois pas dans la vallée de l'ombre et de la mort, ne va pas faire de m'éviter le deuil, la maladie, la souffrance ou l'accident. Mais la providence de Dieu va faire en sorte que, quoi qu'il arrive, je ne serai jamais seul. Et qu'il y aura toujours en lui cette source de nouveauté de vie, de résurrection, cette source d'espérance, de confiance, de lumière et de joie. Et ça, c'est, je crois, la chose la plus essentielle qui soit. Il y a en effet, je crois, dans le christianisme même quelque chose d'extraordinaire qui est l'anti-superstition. La superstition, c'est de croire, comme je vous l'ai dit, qu'en croyant en Dieu, les choses iront mieux. Mais le christianisme nous annonce tout le contraire. Et Jésus dit, si vous croyez en moi, vous serez persécutés, vous serez mis à mort, et finalement même, vous souffrirez. Et l'exemple qu'on nous donne, c'est un Christ. Un Christ, bon, c'est pas un Christ qui a eu beaucoup de chance dans sa vie. Je dirais, il est mort à 33 ans, sans enfant, sur la croix, renié de tous. Est-ce que c'est vraiment ça le sort que nous envions pour nous-mêmes? Est-ce que c'est ça le sort que nous souhaitons à nos enfants quand nous les voyons vivre? Eh bien sûr que non. Et en même temps, c'est bien pour dire que la promesse du christianisme est justement la promesse opposée à celle de l'idolâtrie et à celle de la superstition. La promesse du christianisme, c'est de dire plutôt, ne vous préoccupez pas de ces choses-là, parce que vous avez un trésor qui est infiniment plus important et qui est d'un autre ordre et qui efface toutes les questions qui sont de ce niveau-là. Ainsi, oui, je crois à la providence de Dieu. Et je crois, comme le dit le psaume, que nous devons remettre notre sort à l'Éternel. Non pas parce qu'il va améliorer le sort matériel, mais parce que, dit le psalmiste, il te soutiendra. Et je crois aussi que, comme le dit cette lettre aux Philippiens que nous avons lue, nous devons tout dire à Dieu. Priez Dieu, dit-il, priez-le, dites-lui tous vos problèmes, soumettez-lui toutes vos questions, dites-lui toutes vos difficultés, tous vos souhaits, tous vos vœux, toutes vos frustrations, toutes vos angoisses. Et la conséquence de cela, c'est Paul lui-même qui le dit dans ce même passage des Philippiens, et il dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et c'est ça l'exaucement de la prière. C'est que oui, dans la prière, nous lui disons tout à Dieu, parce que nous devons tout dire à Dieu. Et même si vous avez peur qu'on vous vole votre appartement, dites-le à Dieu, mais ne lui demandez pas de remplacer les verrous de sécurité. Mais dites-le à Dieu. Et ce même sentiment que vous partagerez à Dieu dans la prière, Dieu le transformera. Et c'est Dieu qui mettra dans votre cœur le moyen d'être au-delà de cette préoccupation ou de la surmonter s'il le faut. Et ainsi, probablement, que la plus belle des expressions de la providence divine, elle se trouve dans ce passage trop connu de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, quand il dit « Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu ?» Et il dit « Je crois que sera-ce la mort, la persécution, le péril, l'épée, la faim, ou les forces d'en haut, ou les forces d'en bas ?» Mais dit-il, je crois que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je crois que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ni la faim, ni la mort, ni le péril, ni l'épée, ni aucune chose d'en bas, ni celle d'en haut, ni quoi que ce soit. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et ainsi, oui, celui qui remet sa vie entre les mains de Dieu a remis sa vie entre les mains, entre de bonnes mains. Entre les mains de la vie, entre les mains de l'amour, de l'espérance, de la joie,